Bonjour. Alors, ça, je vais vous faire une petite conférence plus ou moins improvisée. En fait, j'ai plus le temps de j'ai le temps de la préparer, mais pas de la réviser vraiment. Normalement, je fais ça assez sérieusement. Donc, je risque de regarder un peu mes notes pour mon plan. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, donc, je suis Benjamin Sontag, rapidement. Je suis un des cofondateurs de la Quadrature du Net. Qui ne connaît pas la Quadrature du Net ici ? Ok, 1, 2, 3, 4. Alors, rapidement, la Quadrature du Net, c'est donc une association de défense des libertés sur Internet qui a été fondée en 2008, lorsqu'on a vu poindre à l'horizon le paquet télécom européen, qui est un ensemble de lois qui voulait réguler le monde des opérateurs de télécom en Europe, et qui, il y avait aussi à l'époque des rapports parlementaires qui allaient donner ce qu'on appelle aujourd'hui la Hadopi. Et avec plusieurs amis, activistes, militants, amateurs et grands défenseurs de logiciels libres, on a décidé de monter une structure juridique qui a été financée à l'origine par la Fondation Open Society et depuis par l'Open Society et les citoyens de France et d'Europe. Le but étant de défendre la liberté sur Internet, c'est-à-dire la neutralité du réseau, le droit à partager l'information, voilà, la défense de tout ce qui fait, mais que, enfin, vu votre âge, vous êtes tous nés avec Internet quasiment déjà en place, donc vous savez ce que ça peut apporter dans notre société, vous vivez avec, j'imagine que vous communiquez beaucoup, donc nous voilà, on veut défendre ce que l'on sait être les bonnes choses qu'apporte Internet, notamment ces moyens de communication et cette liberté d'information. Appuyé par le logiciel libre, si vous n'avez pas vu la conférence de Benjamin Bayard, Minitel 2.0, allez la voir, elle parle de ça, elle est très bien. C'est un sujet qui est développé par le conférencier suivant. Et donc la Quadrature du Net a depuis été voir les parlementaires français, les députés, les sénateurs, les hommes, les élus, et les députés européens et membres du Conseil, dans le but de leur expliquer comment ça fonctionne Internet, pourquoi c'est important de conserver un certain nombre de caractéristiques techniques comme la neutralité du réseau. Et donc, on a participé notamment à l'écriture de la saisine du Conseil constitutionnel sur Hadopi, qui a été censurée, comme vous le savez probablement, qui a donné une espèce de machin qui sert à rien et qui a à peu près rien fait. Et on est aussi force de proposition. On a aussi beaucoup travaillé sur un dossier qui s'appelait ACTA, le traité commercial anti-contrefaçon. Un traité européen, un traité entre l'Europe et les États-Unis, le Japon et bon gros tas de pays comme ça au niveau mondial pour essayer de négocier en secret tout un tas de choses, dont une atteinte aux libertés individuelles par Internet, des histoires sur les médicaments, sur les graines, etc. Et donc toute la partie qui concernait Internet, on a été force de proposition et force de dénonciation du côté secret de ces accords. Et en juillet dernier, on a eu une grande victoire où le Parlement européen a voté à 480 contre 30 contre le traité commercial ACTA, ce qui n'arrive jamais au Parlement européen sur ce type de traité. Et donc voilà, on a plusieurs victoires de ce type. Et on continue aujourd'hui avec des nouveaux dossiers, toujours la neutralité du net, toujours les débris d'ACTA et de Hadopi, avec des nouveaux traités commerciaux, avec des choses de ce genre-là, qui attaquent Internet et qui attaquent nos libertés. Et donc, on invite à vous renseigner sur laquadrature.net. Et donc, voilà, je suis un des cofondateurs de la Quadrature, et avec Jérémy Zimmermann, Philippe Aigrin, Kalimac et les autres, et Benjamin Bayard, qui est maintenant membre du CA. On passe un peu notre temps libre, ainsi que les permanents de la Quadrature, à défendre les libertés. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose assez récemment, que vous avez probablement vu dans les médias, qui n'a jamais entendu parler d'Edward Snowden. Voilà, bon. Donc tout le monde a entendu parler d'Edward Snowden. C'est donc un analyste de la NSA, qui est en fait un contractant pour Booz Allen Hamilton. C'est-à-dire qu'en gros, c'était pas vraiment un gars de la NSA, c'était plutôt un gars qui embauchait Edward Snowden. Et ce jeune homme, dont voici une photo par ailleurs, qui a une trentaine d'années, 30 ans tout rond, s'est dit un jour, voilà, ce que je fais dans mon travail, c'est ce que je vois fait dans la NSA, ça n'est pas possible, ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce que je suis prêt à accepter. Et donc, il a décidé de faire un pas de côté, ce qu'on appelle, devenir ce qu'on appelle un whistleblower en anglais, on appelle ça un lanceur d'alerte en français. Et en gros, il a dit, je veux dénoncer ce que j'ai vu à l'intérieur de cette structure. Comme j'ai un peu le temps, je me suis dit que j'allais vous lire un petit texte un petit discours de 4 minutes 30 qu'a fait Edward Snowden quand il s'est réfugié à Hong Kong avant de commencer à dénoncer via les journaux Le Guardian et le Washington Post les agissements de la NSA. Et je vais vous le lire parce qu'il est vraiment... Voilà, ça définit le personnage assez bien, puisque c'est lui qui l'a écrit. C'est une traduction de Gordon Fowler, que je remercie, qui l'a mis en, en libre. Et ça, ça donne vraiment une très bonne idée du personnage, et ça va nous permettre d'aller beaucoup, tout de suite beaucoup plus loin dans la réflexion et dans un peu le questionnement que nous apporte Snowden et les actions qu'on peut faire à partir de là. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir son histoire, et derrière, on va voir vraiment où est-ce que ça peut nous emmener. Donc je vais vous lire vite fait, ça va assez vite. Donc vendredi 12 juillet, à l'aéroport de Moscou, Edward Snowden a sorti le bout de son nez devant les caméras des journalistes pour faire un petit discours qui recadre bien sa situation. Il est soutenu par l'avocate de Wikileaks et par des associations comme Human Rights Watch et Amnesty International. Bonjour. Je m'appelle Edward Snowden. Il y a un peu plus d'un mois, j'avais une famille, une maison au paradis et je vivais dans un très grand confort. J'avais aussi la capacité, sans aucun mandat, de chercher, de saisir et de lire toutes vos communications, celles de n'importe qui, n'importe quand. J'avais le pouvoir de changer le sort de ces personnes. C'était aussi une grave violation de la loi, les 4e et 5e amendements de la Constitution américaine de mon pays, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de nombreux accords et traités internationaux interdisent un tel système de surveillance, massive et omniprésente. Mais bien que la Constitution américaine qualifie ces programmes d'illégaux, mon gouvernement explique qu'un jugement d'un tribunal secret, que personne ne peut voir, a légitimé ces pratiques illégales. Ce jugement corrompt purement et simplement la notion fondamentale de justice, notion selon laquelle, pour réellement exister, la justice doit être appliquée dans les faits et rendue publique. L'immoral ne peut pas être rendu moral par une loi secrète. Je crois au principe établi à Nuremberg en 1945. Les individus ont un devoir moral, international, qui transcende les obligations nationales d'obéissance. Il en découle que les citoyens ont le devoir de violer leurs lois domestiques pour empêcher que des crimes contre la paix ou contre l'humanité puissent être perpétrés. Nuremberg, les procès des nazis après 45, pour ceux qui ne sont pas au courant. Par conséquent, j'ai fait ce que j'ai cru bon. J'ai lancé une campagne contre ces mauvaises pratiques. Je n'ai pas cherché à m'enrichir. Je n'ai pas cherché à vendre des secrets américains. Je n'ai passé aucun accord avec un gouvernement étranger pour garantir ma sécurité. À la place, j'ai rendu public ce que je savais pour que ce qui nous touche tous puisse être débattu par nous tous à la lumière du jour. J'ai voulu un monde de justice. Cette décision morale de parler au grand public de ces pratiques d'espionnage m'a coûté très cher, mais c'était la seule chose à faire et je ne regrette rien. Depuis, le gouvernement américain et ses services de renseignement ont essayé de faire de moi un exemple, un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de parler à leur tour. J'ai été rendu apatride. Apatride, ça veut dire qu'il n'a plus de pays. En effet, son passeport a été annulé. Et traqué pour m'être exprimé politiquement. Les États-Unis d'Amérique m'ont mis sur la liste des personnes interdites de vol aérien. Ils ont demandé à Hong Kong de m'extrader en dehors du cadre juridique qui s'applique dans ce pays et en totale violation du principe de non-refoulement des Nations Unies. Ils ont menacé de sanctions des pays qui étaient prêts à défendre mes droits et le système d'asile politique reconnu par l'ONU. Ils ont même franchi une étape sans précédent en donnant l'ordre à une puissance militaire alliée de forcer l'avion d'un président d'Amérique latine à atterrir pour y chercher un réfugié politique. Cette escalade dangereuse n'est pas qu'une menace contre la dignité de l'Amérique latine, c'est une menace contre le droit fondamental, partagé par toutes les personnes et par toutes les nations, de vivre sans être persécutées, de pouvoir demander un asile et d'en bénéficier. Malgré tout, devant cette agression historique et disproportionnée, un peu partout dans le monde, des pays m'ont proposé soutien et asile. Ces nations, parmi lesquelles la Russie, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua et l'Équateur, ont toute ma gratitude et mon respect, pour avoir été les premiers à se lever contre ces violations des droits de l'homme, perpétrés par des puissants et non par des faibles. En refusant d'abandonner leurs principes devant les intimidations, ils ont gagné le respect du monde. J'ai l'intention de voyager dans chacun ces pays pour leur exprimer mes remerciements personnels à leur peuple et à leurs dirigeants. Cette volonté d'État puissant, d'agir en dehors des lois, représente une menace pour nous tous. Elle ne doit pas être couronnée de succès. Par conséquent, je demande votre assistance, à l'époque c'était aux associations qui l'aidaient, pour me garantir un chemin sûr par les pays concernés en sécurisant mon voyage vers l'Amérique latine. Je demande également l'asile à la Russie jusqu'à ce que ces États respectent la loi et que mon voyage légal soit permis. Je vais soumettre ma requête à la Russie en espérant qu'elle soit accueillie favorablement. Si vous avez des questions, j'y répondrai dès que je le peux. Merci. Et pour l'ambassadeur américain de Russie, Snowden n'était pas considéré par le gouvernement américain comme un lanceur d'alerte, mais bien comme un traître qui a violé les lois américaines. Donc ça, c'était le discours d'Edward Snowden, après être allé à Hong Kong et révéler ses premières choses de la naissance, on va voir de quoi il s'agissait. Il s'est réfugié ensuite en Russie et il a essayé d'aller vers l'Amérique latine, mais il n'a pas pu, à cause notamment de différents pays d'Europe, dont la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui ont interdit l'avion d'Evo Morales, qui est un président d'Amérique latine, donc un avion diplomatique, en dehors de toutes les lois internationales, de survoler leur pays. Edward Snowden n'était pas dans l'avion, mais voilà, ça montre qu'il ne peut pas passer de sitôt. Alors, qu'a révélé Edward Snowden? Il y a des choses très intéressantes. Il a d'abord révélé ce qu'on appelle PRISM. PRISM, en fait, c'est une base de données qui permet à la NSA d'avoir accès en temps réel à tout un tas de serveurs chez tout un ensemble des grosses sociétés de la Silicon Valley. Vous les connaissez toutes. Alors, on va les prendre une par une. Il y a Microsoft, qui est arrivé en 2007, Yahoo en 2008, Google, Facebook, Paltalk, je ne sais pas qui il s'agit, je ne connais pas, YouTube, Skype, AOL et Apple en octobre 2012. Toutes ces sociétés sont reliées, enfin, ont donné accès à leurs serveurs à la NSA, et la NSA stocke dans une base de données, dans ces gros systèmes, dans la base de données qu'elle appelle PRISM, toutes les données et les métadonnées des utilisateurs de ces services. Donc si vous êtes un utilisateur d'un de ces services, vous êtes, par définition, dans les bases de données de la NSA, nommément avec votre carnet d'adresse, avec toutes les données que vous avez pu échanger, ou les métadonnées, c'est-à-dire qui parle à qui, quand, depuis quel endroit, etc. Pas forcément le contenu des conversations, parfois oui, mais voilà, tout ça, c'est stocké dans les serveurs de la NSA. Et donc, étonnamment, ces sociétés ont immédiatement nié, non, perché, hop, non, on fait pas ça, c'est pas vrai. Sauf que le FISA Act et le FISA Amendment Act de 2008 aux États-Unis expliquent que non seulement ces sociétés n'ont pas le droit de révéler qu'elles ont accepté les demandes de la NSA, mais qu'en plus, s'il est démontré plus tard qu'elles auraient accepté, elles ont l'immunité juridique. Sympa. À partir de là, c'est vraiment perché, deuxième marche, troisième marche, on est tranquille. Donc, nier, ça coûte rien, ça fait du bien, ça évite de perdre tout à fait la confiance de ses utilisateurs. En même temps que Stream était révélé Upstream. Upstream, c'est un autre programme qui était en fait parallèle à Prism, ils écoutaient les fibres qui sortaient des États-Unis. Et en fait, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que la NSA, censément, n'écoute pas les Américains. Elle n'a pas le droit. Et en fait, ils ont un système où ils ont plein de critères et ils disent, voilà, si on est sûr à plus de 40, plus de 50% que ce n'est pas un Américain, on a le droit de l'écouter. Donc en fait, une expression de Jérémy que j'adore, c'est en fait, c'est pile ou face plus 1%. Et en fait, en vrai, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils écoutent beaucoup d'Américains. Et puis de toute façon, a priori, je ne sais pas s'il y en a un ici qui est Américain dans la salle, mais ça nous concerne a priori tous de ne pas être Américain. Et donc, bah, ça nous concerne tous, tout simplement. XKScore, c'en est un autre, il est bien, lui. Il est bien. Alors, ils ont 700 serveurs partout dans le monde, notamment dans ce qu'ils appellent les Five Eyes. C'est les 5 pays qui aident et qui collaborent entre leurs services secrets. Donc, il y a le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. Et ces 5 pays collaborent et partagent des informations, des accès à des serveurs, etc. Et dans le cadre de XKScore, ils ont 700 serveurs répartis dans le monde qui écoutent tout ce qui passe, qui gardent de 3 à 5 jours de toutes les données qu'ils peuvent agréger sur des fibres, sur des accès Internet, sur des sorties de data center, et qui gardent une trentaine de jours toutes les métadonnées, qui parle avec qui de quoi, avec quel protocole et dans quel contexte. Donc voilà, c'est pas mal aussi, XKScore c'est un deuxième. Et il est entre autres utilisé par les services de la NSA et les services secrets allemands, le BND et le BFV, qui sont les services comme chez nous la DCRI, la DGSI. Donc voilà, c'est un deuxième programme qui a été de la NSA qui a été développé par Edward Snowden. Un troisième, Bull Run. Alors Bull Run et Hedge Hill, qui sont l'équivalent britannique, ça sert à casser les systèmes de chiffrement. Donc ils ont des gros supercalculateurs, ils ont des gros ordinateurs avec ce qu'on appelle les ASIC, des circuits dédiés, qui ne savent faire que ça, dont le but est de casser des clés de chiffrement. Quand je parlais de PGP tout à l'heure, j'ai une clé moi qui fait 1024 bits en RSA. Aujourd'hui, une clé pareille, ça leur mettrait quelques heures pour la casser, probablement. À l'époque déjà où je l'ai créée, on disait, ouais, en quelques mois, ça doit pouvoir être fait. Aujourd'hui, ce genre de clé, a priori, si vous êtes une cible, parce qu'ils ne vont pas casser toutes les clés de tout le monde, parce que là, pour le coup, ça multiplie le temps de calcul, mais toutes ces clés-là, si vous êtes une cible, comptez pas dessus. Hein. Passez au minimum à 8192 bits et renseignez-vous sur la qualité de vos algorithmes. Et donc, c'est Bullrun qui est chargé de ça. Il y avait aussi quelque chose d'autre dans Bullrun qui était marrant, c'est que tous les prestataires qui étaient prêts à jouer le jeu, ils leur demandaient leur clé privée. C'est plus simple, parce que si vous avez la clé privée directement, vous n'avez pas besoin de casser la clé. Vous utilisez la clé privée où vous pouvez déchiffrer toutes les transactions, toutes les données qui circulent sur les réseaux. etc., etc. Il y avait aussi, en disant des cyberattaques, de l'espionnage de sociétés pour leur voler leurs clés de chiffrement. Ces sociétés qui ne voulaient pas jouer le jeu, bah, on allait les attaquer, on allait chercher les clés, puis après, hop, perché, hop, on pouvait détourner le trafic pour l'écouter. Etc., etc. Aussi les HTTPS, donc les pages web sécurisées, les VPN, la 4G, c'est les trois protocoles qu'ils essayaient majoritairement de cibler. Alors, Bullrun, il y avait moins de gens à la NSA qui avaient accès, c'était juste quelques analystes de très haut niveau, des Five Eyes, justement. Le Tempora, c'est un peu le même genre, mais c'est les Britanniques, voilà, qui faisaient ça. Ils avaient 200, non, c'est pas la crypto, c'est les liens fibres qui sortent de la Grande-Bretagne, ils ont 200 liens à 10 gigabits seconde. Vous voyez le débit que ça peut faire, hein, ça fait 20 terabits seconde, comme ça, qu'ils écoutent, et ils stockent 3 à 5 jours de toutes les données qui passent par ces liens. Et donc, s'ils se rendent compte d'un truc, si c'est avant 3 à 5 jours, ils peuvent aller revenir sur le trafic que vous avez fait depuis la Grande-Bretagne, depuis 3 à 5 jours. Voire depuis la France, parce qu'il y a pas mal de fibres transatlantiques qui font France, Grande-Bretagne, New York. Une autre intéressante, c'est qu'ils ont, la NSA aussi, attaqué Tor. Le réseau Tor, il y en a qui ne savent pas ce que c'est Tor ici. Et n'ayez pas peur de lever la main, comme ça, je fais un petit brief rapide. Tor, c'est un The Onion Routing. torproject.org, c'est un logiciel et un protocole qui permet de vous anonymiser assez bien sur Internet et de chiffrer toutes les communications que vous faites en passant par ce réseau, à destination, bah, au moins à destination des autres nœuds Tor potentiellement. L'idée, c'est que ça ajoute trois couches, on peut régler le nom, mais par défaut, c'est trois couches de chiffrement, et vous passez par trois serveurs ailleurs dans le monde, qu'on appelle des nœuds Tor, qui fait que quand vous ressortez sur un pays au hasard, via un serveur qui n'est pas chez vous, et donc vous cachez votre adresse IP au dernier, vous cachez votre destination au premier, parce que le premier, il ne sait pas où vous voulez aller à la fin, et le dernier, il ne sait pas d'où vous venez. Donc ça, et puis entre deux, ça fait une couche de plus. Donc ça permet en gros, par un système de couches de pleure d'oignons comme ça, de vous anonymiser sur Internet, et de faire que, voilà, on peut surfer avec un peu plus d'intimité. Donc forcément, la NSA n'aime pas Tor, parce que bah, quand ils ont une cible, un coupable ou une des personnes qui veulent aller écouter, bah, s'ils utilisent Tor, ils vont avoir du mal à le remonter, parce qu'il faut remonter un nœud, puis deux, puis trois, ils n'ont pas accès à tous les nœuds, etc. Et donc ils ont tout un tas de systèmes, soit pour essayer de craquer des navigateurs ou des logiciels, soit pour avoir en ayant des serveurs Tor à eux, dont ils changent de comportement pour essayer de vous faire passer, vous, la cible par Tor, par ces nœuds-là, pour qu'ils puissent vous remonter de proche en proche, etc. Et donc, ils ont fait tout un tas d'attaques. Ce qui est intéressant, c'est que Tor, en tant que protocole, reste fiable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à le casser en soi. Donc, ça donne quand même une idée que, voilà, ils ont des limites, on sait vers où on peut essayer d'aller pour garder un peu d'intimité. Et encore récemment, alors ça, c'était intéressant, il y avait un côté... Des révélations par le négatif. Il y a cryptome.org qui a sorti des PDF où on montrait que la NSA avait décidé d'arrêter de sauvegarder les carnets d'adresses Yahoo de certaines personnes parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était des boîtes inactives. C'est-à-dire que par l'inversion, on se rend compte qu'en fait, oui, ça veut dire qu'ils stockent les carnets d'adresses Yahoo de tout le monde. Et donc les carnets d'adresses Gmail de tout le monde, et donc les carnets... Je disais quoi les sociétés tout à l'heure? Donc Microsoft, Hotmail, ça dit quelque chose, Outlook, Yahoo, yahoo.com.fr, Google, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Microsoft donc encore, et Apple, donc tous les services de mail aussi d'Apple. Donc tout ça, cherchez pas, vos carnets d'adresses, vos mails, sont entre leurs mains aussi. Bon, bah ça fait beaucoup tout ça. Ah mais oui, mais en France, ah bah il n'y a rien eu pour l'instant sur la France, ou très peu. Ils ont dévoilé des collaborations avec les Allemands, les Britanniques, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose en France. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez le site reflet.info, ils font des très bonnes infos sur le numérique et le LOL des services, et toutes ces choses-là. Et ils ont dévoilé déjà qu'en France, on avait en effet MSIS, qui était une filiale de Bull, qui a vendu à la Libye, et notamment à des gens tout à fait respectables, comme les gens qui étaient les commanditaires de l'attentat du DC-10 du TA. C'est cool. Des systèmes de surveillance massifs et d'écoute massifs pour écouter l'accès Internet du peuple libyen. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à dénicher des dissidents et aller les chercher chez eux et les mettre en prison. Donc voilà des gens très bien à qui on vend du matériel tout à fait anodin et qui n'est pas du tout considéré comme une arme de guerre. Il y a aussi VuPen, on s'est rendu compte que... Alors ça, c'était dans le cadre de Snowden, c'est la seule relation avec la France. On a trouvé une facture de VuPen à la NSA. Donc VuPen, c'est une société d'intelligence économique en France. Enfin, plutôt de recherche et développement, ils cherchent à trouver des failles de sécurité, ce qu'on appelle des 0D, dans les systèmes Windows, Mac, Linux, et les logiciels. Et en fait, ils vendent ça au plus offrant, quasiment. Donc, la NSA est un client de VuPen. Alors, prétendument, non, mais oui, dans ce domaine-là, la confiance, pour ce que ça vaut. Et il y a aussi, bah, toujours, vous avez probablement entendu parler des histoires des fadettes des journalistes du Monde dans l'affaire Wörth-Bettencourt, où, alors les fadettes, s'il y en a qui ça ne dit pas quelque chose, c'est ce qu'on appelle aussi le pen register en anglais. C'est en gros la liste de vos appels téléphoniques. Tel jour, à telle heure, depuis telle borne, si c'est un téléphone mobile, vous avez appelé depuis tel numéro, tel autre numéro, ça a duré tant de temps. Bah ça, il y a eu des écoutes du journaliste du Monde et ils sont allés chercher les listes des appels de ces journalistes pour essayer de découvrir les sources des journalistes du Monde dans l'affaire Wörth-Bettencourt. Donc ça aussi, ça arrive chez nous. C'est pas nouveau. Donc bah en France, voilà, on en est là. Et en fait, toutes ces histoires de Snowden, ça nous a montré une chose, et on a découvert un terme un peu partout dans les journaux que moi j'utilise beaucoup depuis de nombreuses années, c'est ce qu'on appelle la dystopie. C'est-à-dire qu'avec des gens comme Samizdat, c'était une petite assoce en 2001, avec les Jean-Marc Manac, que vous connaissez peut-être, qui est un excellent journaliste versé dans ces sujets, avec Jeremy Zimmerman, avec les gens de l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation aux États-Unis, qui défend un peu comme la quadrature de la liberté numérique, avec des gens comme John Gilmore, qui est un des fondateurs de l'EFF et quelqu'un d'absolument awesome. Ça fait des années qu'on dit, mais toutes ces choses-là, ça existe, l'Internet c'est génial, mais attention, les protocoles en clair, c'est dangereux, ce que vous dites sur Internet, ça peut être enregistré par n'importe qui, pour n'importe quelle raison, ça passe par des tuyaux que vous ne maîtrisez pas, faites attention, c'est quand même pas terrible en termes de vie privée, méfiez-vous. Et on nous regardait assez, avec un petit sourire en coin, genre, oh, ils sont gentils, ils sont un petit peu paranoïaques. Eh bien, en fait, non. Parce qu'en fait, on était bien en deçà de la vérité. C'est-à-dire que toutes les révélations de Snowden ont été pour nous un choc dans le sens où on s'est dit, mais, ah oui, en fait, ça allait bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. On parle en hexaoctets ou en zétaoctets. C'est-à-dire, vous connaissez les volumes. Dans votre disque dur, vous devez avoir, je sais pas, 320 gigaoctets ou 500 gigaoctets. Quand on en a 1000, ça fait un téra. Quand on en a 1000 téra, ça fait un péta. Quand on a 1000 péta, ça fait un hexa. Quand on a 1000 hexa, ça fait un zeta. OK? C'est dans ces unités-là qu'il parle à la NSA. Et donc la dystopie, c'est juste le concept qui dit qu'en fait le monde dans lequel on a l'impression de vivre, c'est-à-dire mes parents en Picardie au milieu de nulle part, ils ont l'impression de vivre dans un monde où les choses sont comme elles sont, comme ils la ressentent, et en fait pas du tout, parce que ce qu'ils savent pas, c'est que toutes leurs conversations téléphoniques sont potentiellement écoutées ou les numéros de téléphone au moins mémorisés pour des durées illimitées, leur téléphone les suit à la trace de borne en borne et de mètre en mètre. Et toutes les emails que j'échange avec eux sont métadonnées, stockées peut-être à la DCRI ou à la NSA, je ne sais pas. Et donc ça, c'est être dans une dystopie, c'est quelque chose de vraiment très inquiétant. C'est, quand on en sort, c'est un peu comme sortir de la caverne de Platon, réviser vos classiques. On peut avoir un peu comme quand on a les oreilles bouchées, on perd son équilibre. Et là où on a eu quelque chose de vraiment intéressant, c'est quand on s'est rendu compte que non seulement on était dans une dystopie, mais que ça ne bougeait pas. C'est-à-dire que les révélations d'Edward Snowden, il y a 30 ans, ça aurait fait sauter tout le gouvernement américain. La preuve, en révélant bien moins que ça, juste quelques écoutes ciblées gouvernementales minimales, à l'époque du Watergate, Richard Nixon a été destitué. Ça a fait sauter un président des États-Unis avec quelques écoutes, vaguement des malversations minimales. Aujourd'hui, avec ce qu'a sorti Edward Snowden, il ne s'est pour l'instant rien passé. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'on a eu des analystes de la NSA qui ont dit « Ah oui, mais non, mais tout ça, c'est connu. » Ou alors « Oui, mais non, mais quand même, on fait attention à ce que ce ne soit pas des Américains. » Et puis, vous vous rendez compte, c'est pour lutter contre les terroristes. Et donc, c'est quand même inquiétant de voir cette différence de traitement entre le monde tel qu'il était il y a 30 ans ou 40 ans et le monde tel qu'il est aujourd'hui et le fait que ce soit passé complètement inaperçu et que ça gêne personne, qu'on attaque la vie privée des gens, comme ça, des individus. Comment on a pu laisser faire ça? C'est une vraie question. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait pas de preuves formelles. Comme je vous le disais, on était inquiets. On était nombreux à être inquiets, à faire un peu attention, à être conscients de ces écoutes, tout simplement parce qu'on savait les faire nous-mêmes. S'il y a des utilisateurs de GNU Linux dans l'assistance, je vous invite à regarder un logiciel qui s'appelle DSNIF, D-S-N-I-2-F. Il fournit un petit utilitaire qui s'appelle DSNIF, qui prend tout ce qui passe sur le réseau de votre ordinateur, donc si c'est un routeur, tout ce qui passe sur le réseau que vous routez, et il vous montre les logins, mots de passe et serveurs de tous les protocoles en clair qu'il connaît, c'est-à-dire une bonne cinquantaine d'entre eux, sur un écran. Et à l'époque, on avait organisé en 2001, 2002, 2004, ce qu'on appelle des ELIG, des rencontres des médias européens, et dans ce contexte-là, on avait un écran de ce genre sur lequel on projetait le DSNIF du réseau, des machines en libre-service, etc. Ça marche, ça montre aux gens... Ils prennent conscience qu'en effet, les protocoles en clair, c'est mal et faux pas. Parce que votre opérateur, il voit passer ça. Et non seulement les métadonnées de login mot de passe, mais tout le payload, c'est-à-dire toute la charge utile, le mail, la page web, etc., que vous allez voir. On n'avait pas de preuve de ça. Et donc, il fallait faire avec. C'est comme ça qu'on y arrive, a priori. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Edward Snowden, pour nous, c'est un peu un modèle. Alors, c'est pas le seul. Mais aujourd'hui, on a celui-là. Il est apatride. Il y en a d'autres, des lanceurs d'alerte, qui n'ont pas ce problème-là. Aujourd'hui, Edward Snowden est apatride. On doit penser à lui, on ne doit pas l'oublier. Si on commence à plus en parler, c'est probablement qu'il va bientôt se retrouver à se faire embarquer dans un avion de force pour je ne sais où et se faire mettre en prison. Donc, faisons attention à eux. Et surtout, voilà, on doit surtout inspirer d'autres Edward Snowden. Parce qu'il y en a eu d'autres avant lui. Vous avez entendu parler de Chelsea Manning, ex-Bradley Manning, cette soldate américaine qui a dévoilé, censément, puisqu'elle a été accusée en tout cas de ça et rendue coupable, les câbles diplomatiques en 2010 américains qui ont révélé énormément de choses sur la façon dont la diplomatie mondiale se déploie et toutes les petites choses qui se passent sous les tables. Il y a aussi Daniel Ellsberg qui était le révélateur des Pentagon Papers. C'est celui qui avait montré aux États-Unis à la fin de la guerre du Vietnam à quel point la guerre du Vietnam était une boucherie. Ça, lui aussi avait eu des problèmes à l'époque. Il y avait ici Binnie, Drack et Rabak. Binnie et Drack, c'était deux anciens de la NSA qui avaient aussi dénoncé, déjà je crois que c'était en 2001 ou 2002, un petit peu plus tard, déjà à l'époque, les agissements de la NSA en termes d'écoute massive. Et Rabak, c'était une avocate américaine qui était au service, alors vous allez rire, de l'éthique du ministère de la Justice américain. Et un jour, elle n'en pouvait plus, elle est partie. Elle est partie parce que juste, on ne l'écoutait pas, et que l'éthique, là-bas, c'était juste un service, parce qu'il en faut bien un. Parce qu'il faut montrer à l'ONU que oui, on a un service d'éthique très concerné. Donc voilà, ces gens-là, ce sont des lanceurs d'alerte, ce sont des whistleblowers, on en a eu aussi en France. Je n'ai pas trouvé d'exemple dans la soirée d'hier soir, donc je ne les ai pas mis, mais bon, je vous invite à les chercher. Et puis à se souvenir d'eux, et puis à essayer d'en inspirer d'autres. C'est-à-dire à faire de telle sorte qu'il y ait d'autres personnes. Si vous connaissez des gens, je ne sais pas moi, qui bossent dans les milieux pharmaceutiques, dans le nucléaire, dans l'industrie de l'armement, quoi d'autre ? Si vous avez d'autres exemples, je veux bien, à la fin, on fera une petite liste. La finance, Michel. Le pétrole, c'est, ouais, le pétrole, la finance. La finance, c'est pas mal, ça marche aussi bien. N'hésitez pas à leur dire, mais dans ton boulot, ça va ? Y a rien qui te choque, t'es content de te lever le matin, puis d'y aller, ouais, c'est cool, ouais. Non, parce que sinon, t'hésites pas, hein, si t'as des trucs à ça. On sait, nous, on est les geeks, on sait faire de telle sorte que, de manière sûre et anonyme, on peut faire parvenir ça à des médias, genre Le Canard Enchaîné, Wikileaks, Le Monde, tout ça. Ils font de très bonnes choses de ce que tu serais capable de leur faire remonter comme... Et pour la petite histoire, Wikileaks nous a aidés à la quadrature du net il y a quelques années à sortir des documents intermédiaires des négociations d'ACTA. Et on était très contents parce que tout à coup le Parlement nous disait oui mais non mais ce que vous dites c'est pas vrai, on va pas porter atteinte à la neutralité, faire de telle sorte que le copyright soit renforcé à coup de marteau dans la tête de tous les Européens. Non c'est pas vrai, et on se dit si. Et donc voilà, faites de telle sorte qu'il y en ait d'autres, des lanceurs d'alerte. On a trouvé aussi hier une petite carte qui montrait la différence. Et ça c'est aussi un des points sur lesquels je voulais insister. Entre ce que faisait la Stasi, qui est la police politique en Allemagne de l'Est, donc dans l'ex-bloc de l'Est, pour ceux qui ont connu, c'était avant la chute du mur de Berlin. En Allemagne de l'Est, il y avait une police politique et qui avait des petites fiches sur tout un tas d'individus, une bonne partie de la population, en gros tous ceux qui n'étaient pas les mecs qui faisaient les petites fiches, pour faire simple. Et ces petites fiches, si on les met dans des armoires, ça tient, vous voyez, c'est une carte de Paris, donc vous avez la Seine qui fait un boudron comme ça, donc ça tient dans 0,019 km², soit 49 000 armoires, pour 200 km de dossiers. Je dis les gros dossiers avec la Seine, vous en mettez 200 km bout à bout, et c'était les dossiers de la Stasi. C'est des dossiers papier, donc pour chercher dedans, il fallait prendre un index intermédiaire, aller chercher la fiche, aller voir la fiche, etc. Ça prenait beaucoup de temps. Je suis tenté qu'on puisse trouver ce qu'on cherchait dedans. Et en fait, à droite, c'est les mêmes, mais de la NSA en 2013. Mais en fait, non, c'est pas à l'échelle. Parce qu'en fait, si je veux aller à l'échelle, la NSA, ça tient sur cette surface-là. Dans les mêmes dossiers papier de la Stasi de l'époque, j'entends bien. C'est-à-dire que si on fait la comparaison entre une police politique en Allemagne de l'Est, pour une population qui était somme toute déjà assez nombreuse, et ce qu'a aujourd'hui la NSA en termes de volumétrie de données, aujourd'hui... Le rapport d'échelle, il est de quelques centaines de millions de fois plus. Et il y a aussi une énorme différence. C'est que tout ça, c'est dans des ordinateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire une recherche là-dedans, ça prend 4 minutes. Et ce n'est pas un humain qui l'a fait. Si vous voulez chercher n'importe quelle donnée, vous avez des critères précis. Vous faites « requête, select, étoile, from, machin, bidule » et hop, ploum, il vous sort un petit tableau avec les résultats. Alors voilà, un tel, il a été là, il a fait tel paiement, il a tel email, etc. Donc ça, c'est aussi pour avoir une idée de... Mais la Stasi, en Allemagne de l'Est, c'était un truc grave. Les Allemands de l'Est sont martyrisés par ça aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de refaire des lois un peu sécuritaires en Allemagne il y a peu. Ils ont appelé ça... c'était Ursula, je ne sais plus comment, la députée chargée du projet, et ils ont fait des affiches qu'ils appelaient Censursula, et où ils reprenaient des affiches de la Stasi de l'époque. C'est un peu comme nous, les collaborateurs, vous voyez, c'est quand on a envie de faire un truc qui tape, on prend les affiches des collabos de l'époque et on remet des politiciens modernes dedans en image. Ça fait des trucs qui marquent les esprits. En Allemagne, ça marque les esprits parce que ça les a vraiment martyrisés. Aujourd'hui, on a ce 200 millions de fois plus aux États-Unis qui sont guère que 100 à 200 fois plus nombreux que... Même pas, ils sont 70 fois plus nombreux que les Allemands de l'Est de l'époque. Et même si le monde est 100 000 fois plus nombreux que les Allemands de l'Est de l'époque, on reste quand même dans des échelles qui sont apocalyptiques. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que c'est... Enfin, honnêtement, ça nous a un peu dépassé quand on a vu tous ces chiffres débouler. Et en fait, tout ça, le réseau dont je vous parle, les gens qui, depuis très longtemps, dénoncent, essaient de montrer un peu de quoi il s'agit, c'est ce qu'on appelle, entre autres, les cypherpunks. Les cypherpunks, c'est des gens qui, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, je ne suis pas très sûr des années, peut-être dans une quinzaine, en gros, c'est en gros, depuis PGP existe et un peu avant RSA, essayaient de faire de telle sorte qu'il y ait un petit peu plus d'intimité pour chacun d'entre nous, d'où le nom d'ailleurs de PGP, qui veut dire Pretty Good Privacy, assez bonne intimité. Et que bah, les puissants, eux, à l'inverse, bah, comme ils sont puissants, ils veulent exercer un pouvoir, mais il va falloir montrer patte blanche et être un peu plus transparent, être un petit peu plus prêt à admettre qu'il y a des choses de votre vie privée qui concernent la cité parce que vous en êtes les gestionnaires et les politiciens. Et on verra pas que les politiciens. Et donc, je vous invite à leur donner plus de transparence. Et c'était leur motto, leur citation, c'était « Privacy to the weak, transparency to the powerful ». Donc ça se comprend dans le texte. Et donc ces cypherpunks, c'était vraiment ceux qui, au début et depuis longtemps, dont les Jack Applebaum qui ont fait tort, dont les Julian Assange de l'époque, donc tous ces gens-là ont fait un peu les premiers lanceurs d'alerte, au sens alerter les peuples sur ces outils. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que toutes ces histoires de l'après Snowden, en fait, quand je vous disais c'est Internet et Liberté après Snowden, non, on n'est pas après Snowden, on est dans l'ère Snowden. On est dans l'ère de la NSA, on est dans l'ère de la surveillance. Et en fait, la surveillance de notre vie privée. Et là, il y a quelque chose qui me titille, c'est vie privée. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a une bonne définition de ce qu'est la vie privée ? Quand je vous dis la liberté, c'est facile. La liberté, c'est l'ensemble des actions, pensées, tous les signes qu'on peut émettre et qu'on s'autorise à émettre et qui, a priori, s'ils atteignent ce que l'autre considère comme sa liberté, il y a une frontière. Et donc, en gros, la liberté, c'est tout ce qu'on peut faire qui s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Et entre individus, c'est la liberté, c'est tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on veut faire, qu'on peut faire parce que la liberté nous le permet et que ça s'arrête là où commence celle de l'autre. La vie privée, c'est pas si simple. Et quand on essaie de la défendre, on a tout le temps ça. Et ça, c'est rasoir. Bah ouais, si vous avez rien à cacher, si vous avez rien fait d'illégal, vous avez rien à cacher, pas de problème. Alors souvent, ça, celui qui nous dit ça, c'est le premier qui, au bureau, arrive quand on déménage et il se met un PC comme ça dans un coin avec l'écran ou comme ça on voit pas son écran. Puis nous, on a des écrans comme ça, vous savez, où on voit l'écran. Et donc, c'est étonnant parce que pourquoi tu caches ton écran si t'as rien à cacher ? Bah c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, t'as rien fait d'illégal, de toute façon. Ah ouais, mais... Enfin non, mais c'est pour être tranquille. Ah ouais, bon, enfin, donc t'as un petit peu la notion de vie privée, quand même. Ouais, quand même. Puis, sinon, on peut aussi mettre des caméras chez toi. Ça, c'est plus simple. Comme ça, s'il se passe quelque chose, on est au courant, puis on peut venir t'aider, ou on peut... si tu fais cambrioler, genre... Je sais pas, on peut mettre ça dans ta chambre, ta salle de bain, t'es... Ah non. Ah non plus, non. Ah, d'accord. Donc, en fait, la vie privée, on a un petit peu une notion de la vie privée qui est instinctive. C'est la pudeur, c'est l'intimité. Toutes ces choses qu'on n'a pas forcément envie de divulguer. Et en fait, moi, j'ai cherché une définition de la vie privée. Alors, moi, j'ai un peu galéré. Il n'y a rien qui me satisfait. Donc, je me suis fait la mienne avec un collègue. Et on s'est dit, c'est en fait l'ensemble des signes que l'on ne souhaite pas communiquer à plus qu'à ses destinataires. On y réfléchit ensemble. Un petit peu de philo. On va faire 10 minutes de philo. L'ensemble des signes qu'on ne souhaite pas divulguer à plus qu'à ses destinataires. Ça veut dire qu'en fait, on considère comme étant de la vie privée quelque chose, que quand on fait quelque chose, en fait, si on considère que c'est de la vie privée, si ça sort du cadre des gens à qui on s'attend à ce que ce soit divulgué. Et en fait, À partir de là, on peut faire une autre définition qui est plus large, qui est celle de ce que j'appelle moi la polis, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, si on revient aux fondamentaux grecs. Et en fait, un individu qui entre en politique, je reprends un peu une autre, parce que là je suis un peu perdu, qui entre en politique, donc qui participe volontairement à la gestion de la cité, alors ça peut être plusieurs individus, ça peut être l'homme politique qui se présente à une élection, parce qu'en effet il va être participant actif et effectif et connu à la gestion de la cité. Ça peut être aussi celui qui a une publication volontaire, typiquement un écrivain, tous les écrivains, les artistes, la peinture, la musique, le spectacle, ça, c'est vous participez à la vie de la cité parce que vous allez transmettre un message à la cité, dans des grandes salles, dans des amphis comme ça. Mais aussi, par exemple, l'importance prise par une structure. Moi, je suis d'un village de 3000 habitants, il y a une filiale de Nestlé au bord du village qui s'appelle la CIPPA, il y a 300 personnes qui bossent à la CIPPA, vous imaginez bien que le rôle dans la gestion de la cité de cette société est énorme, et même supérieur à celle du maire, qui est pourtant l'élu, celui qui s'est présenté. Donc on voit qu'il y a plusieurs profils de personnes qui sont engagées dans la vie de la cité, et dans la gestion de la vie de la cité. Et ces gens-là, finalement, on se rend compte qu'ils ont peut-être, on commence à voir qu'il y a pour eux une notion de la vie privée qui va être un peu différente, parce que les actions qu'ils ont un effet sur l'ensemble de nous, sur l'ensemble d'entre nous, et sur la vie de la cité. Et donc, ces gens-là, forcément, il va y avoir nécessairement une notion de la vie privée qui va être un petit peu différente. Si vous discutez un petit truc dans votre bureau avec quelqu'un et que ça n'a pas d'effet de masse, c'est très différent de si le maire décide avec le chef de la CIPPA, le patron de la CIPPA, que quand même ce serait bien qu'il mette un sens interdit à cet endroit-là, qu'il bouche la route, parce que ça va avoir un effet massif dans la cité. Donc cette notion de vie privée, non seulement c'est ce que moi je souhaite ne pas voir sortir de ces destinataires, mais c'est aussi, ça s'intègre dans le cadre de quels sont les effets de ce que l'on fait. Est-ce qu'ils vont être petits ou très grands? Donc on voit que la vie privée, c'est quand même un truc un peu compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, la liberté, on voit ça comme un miroir, je vous le disais tout à l'heure, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et bien finalement, la vie privée, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ma vie privée, si moi je commence à vous raconter mes galipettes, vous allez vous dire, oh ouais, mais quand même, moi je veux pas qu'il raconte, enfin quand même, c'est un peu gênant. Et vous auriez raison, parce que pour vous, c'est de la vie privée. Je sais pas si vous connaissez le principe des neurones miroirs. Vous avez déjà vu quelqu'un dans le métro qui baillait, et puis vous êtes mis à bailler. En fait, quand quelqu'un sourit, il y a des neurones dans votre cerveau qui s'activent, qui sont les mêmes que quand vous souriez. C'est ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et en fait, quand vous baillez, c'est pareil, c'est pour ça que les gens se mettent à bailler, parce que ces neurones miroirs du bâillement sont très puissants. Enfin bon, c'est une autre histoire. La vie privée, c'est un peu pareil. Si moi, je commence à vous dire des choses, vous allez vous faire une idée de savoir si c'est de l'ordre de la vie privée ou pas. Mais pas vous faire une idée en fonction de ce que moi, je considère être de la vie privée, mais en fonction de ce que vous considérez être de la vie privée. Il y a cette relation de miroir, en fait. Et ça devient très intéressant, parce qu'on commence à pouvoir voir un peu l'équilibre qui se déploie. Et donc, de même que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, ma vie privée est définie par rapport à ce que la vie privée des autres est définie par rapport à ce que moi je considère être ma vie privée et inversement. Et donc on se rend compte qu'en fait la vie privée c'est une des libertés, mais c'est même une liberté qui est assez puissante en fait. On va y revenir. Des exemples de la sphère privée, de ce que nous on pourrait considérer comme étant de la vie privée. Parce que souvent on vous dit ouais, mais si t'as rien à cacher, si t'as rien fait d'illégal, t'as rien à cacher. Ouais, mais enfin quand même, j'ai un peu un début de truc médical bizarre, machin, qui a quand même des conséquences importantes, j'ai pas envie de t'en parler. On est très nombreux à considérer que c'est de l'ordre de la vie privée. Eh ben, j'ai rien à cacher, j'ai rien fait d'illégal, mais je suis malade et j'ai pas envie de t'en parler, c'est de l'ordre de la vie privée. Je suis en train de sortir avec quelqu'un, j'ai pas forcément envie que ça se sache parce que, pour plein de raisons, et on n'a pas forcément obligé de donner des raisons. Eh ben, ça fait partie aussi, les amours, ça fait aussi partie de la vie privée. Les sources d'information. Moi, j'aime bien publier des trucs sur mon blog. Un jour, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, au photocopieur du Parlement, t'auras la nouvelle version du traité commercial ACTA. » Je suis allé le chercher. Je sais qui c'est, mais je veux surtout protéger ma source. Si j'ai pas de vie privée, je peux pas protéger ma source. Un journaliste, ça, il comprend tout de suite. Hein. Et en fait, on se rend compte d'un truc. C'est comme les militants. Si je suis militant dans un parti, dans une association, à la Quadrature du Net, par exemple, j'ai pas forcément envie que, mon employeur, qui est cette grosse société de gestion de droits d'auteur, sache que je vais militer à la Quadrature du Net, ou appeler mon député pour lui demander des comptes. Donc on voit, en fait, la vie privée, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans lesquelles ça peut rentrer. Et je reviens à la source d'information de tout à l'heure. Ah oui, on peut aussi faire une surprise à un ami, j'avais oublié celui-là. Faire une surprise à un ami, si vous n'avez plus de vie privée, vous pouvez plus faire de surprise à un ami, parce qu'il est au courant avant, donc c'est un peu drôle. Et c'est quoi la conséquence si on a des problèmes de vie privée? C'est la source de tout à l'heure. J'y viens après. La première conséquence, mettons-nous dans un endroit où on n'a pas de vie privée. Mettons une prison un peu dure, ou même un monde un peu dystopique, dans lequel on se rend compte que finalement on n'a plus de vie privée. Tout ce qu'on fait, ça peut être un peu su par, on ne sait pas trop qui, un nombre de personnes assez important. Ben, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez vous auto-censurer. C'est que vous allez vous dire, ah oui, mais non, mais je ne vais pas parler de ça, parce qu'en fait, ça va se savoir quand même. Et puis alors, non, ben, je ne vais pas aller voir mon médecin, parce que je sais que j'ai un truc, mais je n'ai pas trop envie que ce soit écrit dans mon dossier à la Sécu, parce que juste, je sais qu'il y a un nombre de gens à la Sécu qui peuvent y accéder, qui est faramineux, dont mon pote Marcel. Et puis, je ne vais pas non plus aller militer à la Quadrature du Net, parce que, je veux dire, si mon employeur, Vivendi Universal, le sait, juste, je vais être viré. Donc, la première conséquence, c'est qu'on ne fait pas des choses. La deuxième, c'est qu'on ne fait pas des choses, et des fois, on ne s'en rend même pas compte. Il n'y a pas besoin d'un chantage, il n'y a pas besoin de rien. Juste, ça ne nous vient même pas à l'idée d'aller faire telle ou telle chose, parce que l'on sait que si la vie privée, si le côté privé de ces choses est révélé, on aura des problèmes. Donc, on n'y pense même pas. C'est encore un degré au-dessus. Et en fait, on se rend compte que ça atteint donc, le fait de ne pas avoir de vie privée, ça atteint nos autres libertés. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire qu'on a plein de libertés dans la vie, mais si on n'a pas la vie privée, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de libertés qu'on ne va pas pouvoir appliquer dans les faits. Et là, on peut commencer à convaincre les gens avec ça. On peut commencer à leur dire, mais attends, ouais, j'ai rien à cacher peut-être, mais avec tout ça quand même, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas la vie privée, si tu n'as pas ce droit fondamental, cette liberté, eh bien, il y a plein de choses que tu ne feras pas. Et même encore pire, on porte atteinte à la liberté d'autrui. Toujours cette histoire de miroir. C'est qu'en effet, si je suis à la Quadrature du Net, et que je vois quelqu'un qui est, ah ouais, qui bosse chez Vivendi, oh, c'est intéressant, et que j'en cause avec lui, et que finalement, ça se sait par ma faute qu'il bosse chez Vivendi, et que son employeur en vient à le savoir, ben, il va, lui, avoir des problèmes. Donc la vie privée, c'est non seulement une histoire qui nous concerne tous pour soi, mais qui concerne surtout les gens qu'on aime, nos amis, notre famille, nos cousins, les gens quoi, avec qui on fait telle ou telle activité, et ça, c'est super grave. Et ça, c'est un argument auquel on n'avait pas forcément tous pensé jusque-là, et je vous invite vraiment à y réfléchir. Non seulement la vie privée est une liberté fondamentale et importante, mais s'en priver, c'est se priver soi-même d'un grand nombre de libertés, et c'est priver aussi les autres de ces grandes libertés. Et donc voilà, il y a quand même quelque chose de, d'un peu grave. Et donc en fait, ce que l'on voit, c'est que finalement, ces révélations d'Edward Snowden qui nous montrent que les services secrets américains de l'armée, mais ça concerne aussi la DCRI, la DGSI et les renseignements généraux et tous les services, ont des outils massifs de surveillance et on les a pris les mains dans le pot de confiture. On a ce qu'on appelle le smoking gun, le cadavre encore chaud, qui est la preuve irréfutable qu'on a effectivement ces écoutes massives. Et pour avoir travaillé pas mal chez plusieurs opérateurs Internet, je peux vous garantir que c'est aussi très facile pour un opérateur Internet de prendre le trafic qui passe par un serveur, de tout écouter. Les forces de l'ordre ont des équipements pour faire ça. Et donc, même votre opérateur local, même votre fournisseur d'accès, même votre fournisseur de service, si vous avez un mail hébergé quelque part ou quoi, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui si vous n'avez pas le moyen de contrôler au plus près ce qui se passe. Et donc, tout ça, ces histoires de définition de la vie privée et de révélation, ça nous montre que quand même, tous ces services, toutes ces sociétés, notamment de la Silicon Valley, qu'elles soient privées ou même les services donc publics, ils sont donc main dans la main contre nos libertés et ils n'ont pas le droit d'en parler pour les sociétés privées et ça ne les gêne pas finalement parce que de toute façon, nos données, ce sont leur business. Stallman avait raison. Stallman, c'est le père du logiciel libre, celui qui a donné naissance au projet GNU il y a 30 ans maintenant et qui a notamment aidé à l'écriture des licences GPL qui sont géniales et que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas, a dit il y a une dizaine d'années, a commencé à dire qu'on a perdu quelque chose dans le monde de l'informatique, c'était pas juste nos logiciels qui étaient plus libres, c'était qu'on avait en fait un ordinateur qui n'était plus notre ami, mais qui était un traître. C'est-à-dire qu'il nous rend des services, un traître. Mais son métier, c'est de nous rendre service pour mieux nous trahir. Quand j'étais gamin, j'avais un Amstrad CPC 6128. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, processeur 8 bits, fréquence 8 MHz, 128 kg de RAM. Et un lecteur de disquette 3 pouces. J'ai bien dit 3 pouces. À une époque, je savais précisément électroniquement ce qui passait dans le Z80, le Y9912 pour le son, le PDC782 pour le lecteur de disquette, etc. etc. Et les 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 fois 128 kg de RAM. je savais les composants et je connaissais l'assembleur de cet ordinateur. Je savais exactement ce qui se passait à l'intérieur. Je pouvais vous dire, voilà, il se passe ça. Et c'était vrai. Après, un Pentium, comme tout le monde, un petit truc un peu plus puissant. Et là, je commençais à moins comprendre, mais il y avait quand même la carte mère, on voyait comment ça marche, le disquette, le disque dur, tout ça, on comprend comment ça fonctionne et on savait qu'on en avait le contrôle. On pouvait parler au disque dur, lui dire « tu parques tes têtes ». De plus en plus, et ça, ça fait, pour Stallman, c'est flagrant depuis 10 ans, et pour nous, depuis qu'il nous l'a signalé, on s'en rend compte aussi, et puis on le voit de plus en plus, ces ordinateurs qu'on a dans les poches, ces ordinateurs qu'on a ici, celui-là en particulier, c'est le mien, je sais qu'il a des problèmes, sont des traîtres. Ils font tourner des logiciels propriétaires. Il y a tout un tas de logiciels dans mon Android Phone que je ne peux pas libérer si je veux pouvoir disposer d'un certain service. C'est ça un traître. Il vous rend un service. Il vous aide, c'est votre ami. Mais il va vous trahir. Voire, il vous a déjà trahi en vous rendant ce service. C'est les logiciels que j'ai là-dessus sont propriétaires. Et il y a notamment sur les téléphones, sur tous les téléphones, il n'y a aucune exception parce que c'est la définition du téléphone. Vous avez une puce qui est chargée de tout ce qui est émission-réception des ondes. Ce qu'on appelle le baseband. Le baseband, il n'y en a aucun de libre au monde. Le logiciel qui tourne, qui gère toutes les ondes de votre téléphone n'est jamais libre. Ça n'existe pas. Il y a des gars qui essayent, ils n'y sont pas. Ce qui veut dire, et par ailleurs, il faut savoir que ce baseband, il a accès à tout votre matériel. Le micro, la caméra, le haut-parleur, les ondes, par définition. Et donc, votre téléphone est un ordinateur traître, par définition. Tant qu'on n'aura pas des basebands libres, on ne pourra pas savoir ce qui se passe dans son téléphone. Et je vous garantis, c'est utilisé par les services. Derrière, on a tout un tas de protocoles, le DSNIF dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en clair. Quand je fais du POP ou du HTTP, tout ça, ça passe en clair sur le réseau. C'est ce qu'on appelle, nous, être à poil sur le réseau. Vous voyez ce que je veux dire, vie privée, tout ça. Donc, on est à poil sur le réseau. Les protocoles en clair, c'est quand on est à poil sur le réseau, notre ordinateur nous trahit en donnant toutes nos données à tous les intermédiaires par lesquels ça passe. Et les services centralisés. Qui, ici, a un compte Facebook, un compte Gmail ou un compte... Il y avait qui l'autre dans mes... Ah, Skype. Voilà, il y a beaucoup plus de mains que tout à l'heure. Eh bien, vous utilisez des services centralisés qui, encore dans la définition du traître, sont les plus gros traîtres qui soient, parce que ce sont des services à 1 milliard d'individus. Comment voulez-vous aujourd'hui lutter contre un service à 1 milliard d'utilisateurs ? Ces services sont des traîtres. Ils vous rendent service en échange du fait qu'ils vont vous trahir, qu'ils vous ont déjà trahi et qu'ils vont encore vous trahir. Et vous le savez, Skype, depuis qu'il a été racheté par Microsoft, ils ont multiplié par 10 le nombre d'écoutes. Depuis que Skype a été racheté par Microsoft, il n'est plus un protocole peer-to-peer. Il passe par les serveurs de Microsoft. Il n'y a pas de raison. En fait, si, il y en a une, mais vous l'avez deviné. Donc ces services centralisés, ils posent un énorme problème de vie privée, parce que ce que vous donnez à ces services, le but, c'est qu'ils exploitent vos données. C'est pas, vous ne payez pas pour, je vous rappelle. Et puis, vous regardez les... Ah, vous avez lu, au fait, les conditions générales. Vous les avez toutes bien lues de tout en haut jusque tout en bas, et vous avez un diff qui vous est envoyé par mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Ah non ? Ah, tant pis pour vous. À ce sujet, je vous invite à aller voir tos-dr.org, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Term of Service Didn't Read. C'est en anglais, mais vous parlez tous anglais, sinon je vous plains, ou une langue étrangère. Donc c'est en anglais, mais c'est très bien. Ils analysent toutes les conditions générales de tous ces services en ligne, et ils vous disent en quoi c'est bien, et en quoi c'est pas bien, et en quoi c'est neutre, etc. Avec des arguments, etc. Ils les épluchent. Donc voilà, ces services centralisés, voilà, ça aussi, c'est un problème. Et pour finir, évidemment, ce matériel fermé. Alors, je vous donne des exemples, parce qu'ils sont pareils, ils sont geeks, ils sont marrants. Je vois qu'il y a pas mal de geeks, donc on va geeker. Le baseband, c'est l'exemple le plus classique. La puce modem, qui fait tout ce qui est les ondes, elle est pas libre. Donc déjà, on est mort. Dans cet ordinateur, j'ai appris récemment que les processeurs Intel Pro Core i5, Core i7 avaient approuvé... mais avait, donc on va voir si c'est avéré, une puce dans le processeur, une puce GS, 3G intégrée, en ce qu'on appelle en seamless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de carte SIM, qui permet de gérer un système anti-vol. Comme ça, si je sais bien, si je me fais voler mon PC, je peux demander à Intel de tout désactiver à distance. Ouais, sauf que ça veut dire qu'Intel a accès à mon matériel de l'intérieur sur le bus de données et d'adresses de tous mes périphériques. Je ne leur ai pas donné le droit de le faire. Et je n'ai pas l'intention de leur donner, et je ne veux pas. Et donc, mon matériel est fermé, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce processeur, c'est mort. Et récemment, on a même montré qu'il y avait des matériaux, des composants électroniques, des processeurs, par exemple, qui ne faisaient pas du tout ce pour quoi ils étaient prévus. un Russe qui avait, ou un Russe et un Américain qui avait étudiant aux États-Unis, qui avait trouvé dans un processeur de catégorie militaire. Donc c'est des Américains qui ont dit voilà, on va faire ce processeur avec ça dedans, système de pour stocker des clés de crypto et tout. Ils l'ont fait fondre chez Intel en Chine. Et le processeur est revenu, et puis ils ont commencé à étudier le truc, et en fait, il y avait des commandes en plus qu'on pouvait envoyer pour sortir les clés privées. Et ils les ont trouvées en analysant les ondes électromagnétiques émises par le processeur décaloté pour voir mieux les ondes, et en regardant les consommations électriques de chacune des broches. Et ils se sont dit, là, il se passe quelque chose alors qu'on n'a rien demandé. On a demandé une commande invalide, et ça fait 2 minutes qu'ils bossent. Qu'est-ce qui se passe ? Etc., etc. Donc, on a du matériel fermé, c'est le quatrième clou dans le carrosse de notre vie privée. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est quoi l'ordinateur ami ? Parce que c'est bien tout ça, mais on va quand même y bosser. Ben, la première chose, c'est le logiciel libre. Je ne vais pas faire mon Stallman, vous connaissez tous le principe. Notamment, faire de la crypto, je le disais l'autre jour, faire de la crypto avec des logiciels non libres, c'est un non-sens, par définition. Parce que le chiffrement, ça s'audite. Sinon, ça n'existe pas. Et qu'il n'y a pas pire que de faire un mauvais chiffrement. Mais les logiciels libres, même pour l'usage au quotidien, parce que ces logiciels propriétaires sont nos ennemis. Ils trahissent notre confiance tous les jours. Ils font du mal. Et donc, il faut qu'on arrive peu à peu à avoir des équivalents libres à tous les logiciels qu'on peut utiliser. Que ce soit sur nos ordinateurs, sur nos ordiphones, qui sont plus puissants que l'ordinateur que je pouvais m'acheter le plus puissant il y a 10 ans. Donc ce sont des ordinateurs qui nous veulent autant de mal que les autres. Donc on a besoin de ces logiciels libres. On a besoin de chiffrement point à point, c'est-à-dire de protocoles comme HTTPS, comme PGP, comme POPS, comme ZRTP pour la discussion audio et vidéo avec Jitsi qui marche très bien, au mieux que Skype même, en chiffré, etc. On a besoin de services décentralisés. Je n'ai pas grand-chose à vous proposer en la matière pour l'instant, hélas. J'ai quelques trucs, mais on n'y est pas encore. Et en matériel ouvert, c'est encore pire. Aujourd'hui, cela n'existe pas. La Raspberry Pi est à peine ouverte. Il y a quand même des blocs binaires pour ceux qui ne connaissent pas la Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur grand comme ça à $35 qui fait un 800 MHz et 512 de RAM, je crois, un truc comme ça. Qui a une carte réseau, deux cartes USB. Enfin, voilà. Et même la Raspberry Pi qui est censément libre ne l'est pas entièrement. Son coprocesseur graphique qui fait le boot n'est pas libre. Et donc on a besoin de tout ça. Et donc si on veut récupérer un peu de la vie privée, un peu de la liberté et surtout redonner de la liberté. Aux gens qui nous sont chers et aux gens qui nous entourent, et ne pas faire qu'il leur arrive des bricoles, il faut qu'on travaille dans cette direction-là. Je vous rappelle les 4 libertés du logiciel libre, parce que c'est pas 3, c'est pas 2, c'est pas 1, c'est les 4. Faut que un logiciel est libre quand vous avez le droit de l'exécuter pour tous les usages, y compris commerciaux, y compris pour un usage qui n'est pas prévu par le mec qui l'a écrit. Étudier le fonctionnement, c'est-à-dire disposer du code source dans un état lisible, avec des commentaires, avec de la doc, sinon c'est pas vraiment libre. Je suis assez furieux là-dessus. Que vous avez le droit de redistribuer des copies du programme et de modifier, quatrième liberté, modifier ce programme et de redistribuer des versions modifiées. Petite piqûre de rappel, ça ne mange pas de pain. Le chiffrement point à point, vous connaissez probablement PGP. Si vous ne connaissez pas, vous allez aux ateliers du CRANS, qui en fait de temps en temps sur PGP, vous lisez leurs slides en ligne, c'est très bien écrit. Et puis si vous avez utilisé PGP, je veux bien signer votre clé à la fin de la conf. Il y a souvent des doutes sur la crypto, sur RSA, sur les coupes elliptiques, sur toutes ces choses-là. On a pris des coups énormes avec Snowden, parce que on a découvert tout ça. Et on a aussi appris une chose cruciale. C'est là. Encryption works. Properly implemented strong crypto systems are one of the few things that you can rely on. La crypto, ça marche. Des systèmes cryptographiques proprement mis en œuvre correctement, sont une des rares choses sur lesquelles on peut compter. Cette révélation d'Edward Snowden, quand il nous dit ça, lui qui connaît l'intérieur des fonctionnements des arcanes de la NSA, qui a des budgets en centaines de milliards de dollars, nous dire ça, c'est une pure information. Ça veut dire que les RSA 8192, ça marche, ça veut dire que des courbes elliptiques non affiliées au NIST, ça fonctionne, ça veut dire que Blowfish est bon, ça veut dire que SHA-256 fait l'affaire et qu'on peut y aller. Et KES, c'est probablement pas mal. On peut faire confiance à ces algorithmes de chiffrement. C'est une vraie information. Unfortunately, endpoint security is so terrifically weak that NSA can frequently find ways around it. Hélas, la sécurité de l'extrémité, c'est-à-dire si je veux parler avec quelqu'un, il y a une extrémité ici, il y a l'autre extrémité là-bas. Lui. Sa sécurité à lui, pas à l'algo, mais à l'ordinateur que voici matériellement, logiciellement, tiens. Logiciellement, en termes d'operating system, etc., est tellement faible que souvent la NSA elle a pas besoin de casser le tuyau chiffré là, elle vient se connecter sur votre machine ou elle met un dongle physique ou elle accède voilà, au baseband du téléphone ou elle accède et elle a l'autre extrémité et par définition en crypto, quand on fait de la crypto point à point, à chaque extrémité c'est déchiffré, chiffré à une extrémité déchiffré à l'autre, donc c'est en clair à chaque extrémité par définition. Donc ça, c'est une vraie information. Gardez-le, diffusez-le. S'il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais le RSA, on a des doutes sur RSA. » Ouais, enfin, on a peut-être des doutes, mais en attendant, lui, il nous a dit ça. J'ai plutôt confiance dans ce qu'il nous dit là-dessus. On va continuer à utiliser la crypto. On va continuer à douter sereinement des algos. Si on est mathématicien, s'il y en a d'entre vous qui connaissent bien ces algos-là, étudiez-les, auditez-les, c'est important. On a besoin de vous, parce qu'on a besoin de logiciels libres, mais on a besoin surtout d'algos audités par des amateurs de logiciels libres et des gens qui veulent défendre la liberté et la vie privée. Mais voilà, et donc, la piqûre de rappel de Snowden, c'est qu'en fait, il nous faut des systèmes libres, il nous faut des logiciels libres pour que la sécurité de nos postes de travail soit la plus garantie possible. On n'a pas tous la NSA comme ennemi, mais on est tous écoutés, mais on n'est pas tous une cible. Ceux qui ne sont pas une cible, ils peuvent utiliser un logiciel libre, des systèmes libres, ils vont pas se faire attaquer par la puce 3G, machin, parce que ça leur coûte cher de faire ça, donc ils vont pas le faire pour tout le monde. Donc, utilisez ces systèmes. Et donc, c'est à peu près tout. Voilà. Oui, des exemples. Les protocoles décentralisés aussi. Le meilleur protocole décentralisé qu'on connaisse, c'est l'email. Alors oui, pas Gmail, pas Yahoo, pas Hotmail, parce que ça, c'est pas votre email, c'est le leur. Pourquoi ? Parce que le jour où vous voulez partir, vous pouvez pas garder votre adresse. Donc si vous avez un truc à faire, achetez-vous un nom de domaine. Moi, j'ai suntac.fr, c'est pas mal, ça me fait mon mail benjamin@suntac.fr. Ben, je vous invite à faire ce genre de choses. Quand vous avez votre nom de domaine, vous êtes sûr 30 ans après qu'il sera toujours à vous et que vous pourrez être allé d'un prestataire à l'autre parce que vous avez envie de bouger, parce que vous avez plus confiance, parce que vous avez voulu faire votre serveur, parce que ce sera toujours votre nom de domaine et il va vous suivre. L'email, c'est aussi donc utilisable avec des logiciels de mail libres comme Thunderbird, il y en a d'autres, avec Enigmail qui vous permet de faire du chiffrement point à point. Ou des RankCube, par exemple, RankCube c'est un logiciel pour faire un webmail, pour aller voir votre mail depuis une interface web, que vous utiliserez bien évidemment en HTTPS. Jabber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le protocole XMPP, c'est le protocole de chat le plus utilisé au monde, tout simplement parce que c'est celui qu'utilisait Google. Ce n'est plus le cas, parce que Google, comme tous les services centralisés, ils font ce qu'on appelle le walled garden, le jardin clos. Vous êtes, oh c'est cool, c'est les petits cochons qui discutent, vous savez, c'est cool, la nourriture c'est gratuit ici. Ah, c'est bien, c'est les cochons dans la ferme, ils sont contents parce que la nourriture est gratuite. Vous avez tous compris ? Le petit cochon dans la ferme, il a quand même des barrières hein, au bout d'un moment. Oh, ça, c'est marrant, c'est bizarre, ils ont mis des barrières. Ah, puis oh, les barrières, elles sont serrées quand même. C'est quoi ce couteau déjà ? Pourquoi il a un couteau, le monsieur là ? Voilà, c'est ça, les walled gardens. C'est peu à peu, on referme le jardin, la nourriture est gratuite, on ferme un peu plus le jardin, on vous met dans des enclos, et puis à la fin, on arrive avec le mec qui a le couteau. Twitter est en train de faire ça. Peu à peu, l'API Twitter se referme. On peut faire de moins en moins de choses de hacker avec Twitter. Ils sont en train de refermer le walled garden. Google l'a fait il y a bien longtemps. Gmail, aujourd'hui, devient n'importe quoi. À une époque, on pouvait, avec Google Talk, dialoguer avec d'autres gens utilisant d'autres serveurs Jabber ailleurs, ce qu'on appelle la fédération. C'est natif au protocole Jabber. Facebook utilise Jabber depuis toujours pour son chat. On n'a jamais pu interopérer avec les serveurs Jabber de Facebook. Et donc, c'est le protocole le plus utilisé, mais c'est surtout celui qui est le plus dévoyé. Parce que bah, justement, aujourd'hui, avec Google, on ne peut plus interopérer, et avec Facebook, on n'a jamais plus. Par contre, vous pouvez installer votre propre serveur Jabber ou bénéficier du serveur Jabber de toute autre personne que ces gros mastodontes chez qui il ne faut pas aller. Et bah, Jabber, c'est génial, et vous avez un client Jabber que je recommande vivement. Il y a Pidgin qui est très bien, mais qui est assez léger. Et sinon, vous avez Jitsi, qui a l'avantage énorme, c'est qu'il fait tout ce que Skype fait en mieux. Vous pouvez faire de l'audio, de la vidéo, partager votre écran. Partager un tableau blanc sans vous prendre la tête avec votre maman qui va pouvoir aller voir votre petite fille en vidéo conférence quand vous êtes à l'autre bout du pays. Donc utilisez Jabber, c'est très bien. Si vous êtes un geek et vous avez un serveur, mettez des serveurs Jabber à disposition des autres qui se fédèrent entre eux sans se poser la moindre question. Une adresse Jabber, c'est comme une adresse email, donc c'est à gauche de l'arrobas, c'est mon nom, à droite de l'arrobas, c'est le domaine sur lequel, nom de domaine sur lequel on l'a posé. Et donc utiliser Jitsi. Et sinon, pour le partage de fichiers, il y a BitTorrent, enfin Torrent, c'est bien aussi, ça marche. C'est décentralisé, ça peut être chiffré, et c'est très efficace. Et donc maintenant, on fait quoi pour finir? Quelques derniers petits conseils. Si vous connaissez Stallman, lisez ce qu'il écrit, il n'écrit pas beaucoup. Regardez ses confs, une ou deux, c'est un peu toujours les mêmes, mais regardez-en une ou deux, si ce n'est pas déjà fait. C'est très intéressant. Il redonne ce que je viens de dire
en mieux.
Et il a un français qui est so charming. Ceux qui ne connaissent pas Lawrence Lessig, c'est un des initiateurs des Creative Commons. Je vous invite à lire aussi ce qu'il écrit. C'est un excellent écrivain. Il redonne ses problématiques un nouveau jour fabuleux. Et il s'est passé quelque chose. Je voulais, c'est très récent, donc je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais en parler. Très récemment, la Fondation Creative Commons a décidé, Creative Commons, donc c'est des licences libres pour les œuvres de l'esprit, en gros, la peinture, la musique, tout ça. Ces licences, la Fondation Creative Commons qui gérait ça a toujours été apolitique. C'est-à-dire qu'elle a un statut non-profit aux États-Unis qui fait qu'elle peut bénéficier de dégrèvements, taxes, machin, mais elle n'a pas le droit de faire de politique. Sinon, elle risque de perdre ça. Elle a récemment sorti un communiqué de presse comme quoi elle invite à une réforme importante du copyright aux États-Unis et dans le monde. En tout cas, aux États-Unis, en Europe, au Brésil, enfin dans les endroits où ils sont. C'est une révolution pour Creative Commons. C'est vraiment la première fois qu'ils font ça. Il faut les soutenir parce qu'ils ont une visibilité qui est forte, mais pas assez. Et donc ils disent, voilà, on a fait nous des licences libres pour les œuvres de l'esprit, mais ça ne suffit pas, il faut réformer le copyright. C'est aussi un des combats de la quadrature, donc voilà. Lawrence Lessig, leur initiateur, est quelqu'un de très intéressant. Et le dernier, c'est mon chouchou, Eben Moglen, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors lui, c'est le premier gars dont il faut que vous alliez voir les confs sur Internet. Il y en a une en particulier que j'ai postée sur mon blog, on l'a traduite et sous-titrée en anglais et en français. Donc si vous ne parlez pas l'anglais, vous n'avez aucune bonne raison de ne pas aller la voir. Pourquoi la liberté de penser exige un internet libre, des logiciels libres, des infrastructures autonomes, etc. Sa conférence donc à Republica l'an dernier à Berlin est juste édifiante et vraiment très intéressante. Et c'est Moglen, c'est un professeur de droit à l'université de Columbia New York qui a participé massivement à l'écriture de la GPLv3, donc la licence libre la plus connue. Bruce Schneier aussi, un cryptanalyste très connu qui a écrit des algos de chiffrement et de signature numérique. Glenn Greenwald, le journaliste ex du Guardian qui maintenant a monté son média autonome, qui est celui qui a révélé le gros des affaires de Snowden. Des gens très intéressants. Et puis le côté plus vraiment politique-politicienne, lisez Naomi Klein, la stratégie du choc. Parce que tout ce que je vous ai décrit aujourd'hui, ça existe, c'est de la terreur douce. Et si vraiment ça suffit pas, les dirigeants, les gens de pouvoir, ont toujours cette idée de pouvoir choquer à la 9-11, à la 11 septembre. Je dis pas que c'est un complot, mais ce que je veux dire, c'est que ces événements de grandeur et de choc des civilisations et de choc des individus permettent aussi de dresser les cochons qu'on envoie à l'abattoir dans le World Garden. Et apprenez à coder. L'informatique, moi je connaissais le monde d'il y a 30 ans, j'en ai 36, donc j'étais pas jeune, mais j'étais pas grand, mais quand même, je connais le monde d'il y a 27, 28 ans, j'étais conscient de tout ça, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait aucun ordinateur nulle part, dans les maisons, dans les entreprises à peine, c'est des grosses machines énormes. Aujourd'hui, là j'en compte genre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, j'en ai genre 30 ordinateurs dans la salle. Pardon, 2, 4, 6, 8, 10, 72 ordinateurs dans la salle si on compte les ordiphones que vous avez dans vos poches qui sont vos pires ennemis. Donc il y a un nombre d'ordinateurs hallucinants partout autour de nous et c'est des machines qu'on ne contrôle plus et qu'on ne sait plus maîtriser. C'est une des citations de Moglen que j'aime beaucoup. Vous connaissez les lois de Isaac Asimov de la robotique. Les robots ne doivent pas porter atteinte à l'être humain. S'ils risquent de leur propre vie, ils doivent se défendre, mais ça ne doit pas violer la loi numéro 1, les trois lois de la robotique. Ces trois lois de la robotique, on a l'impression que ça ne nous s'applique pas à nous parce qu'il n'y a pas de robot dans notre monde. Ceci est un robot. Il viole l'ensemble des trois lois de la robotique. Il est capable de se faire mal, mais il est surtout capable de me faire mal. En portant atteinte à ma vie privée, je vous ai suffisamment expliqué à quel point la vie privée pouvait être quelque chose d'important avec force d'argument. Donc voilà, on a des lois de la robotique qui ne sont pas respectées, donc apprenez à coder, reprenez le contrôle sur la machine. Et en tirer des conclusions, c'est plutôt à vous de la conclure. Je voulais mettre quoi dans ma conclusion ? Je sais plus. On l'a faite à 4h du matin, donc. La conclusion. Donc défendre la liberté, c'est pas abstrait, c'est pas éloigné. C'est pas quelque chose sur lequel on n'a pas prise. La preuve, je vous ai donné plein de bonnes idées et je vous invite à trouver les vôtres. Mais c'est quelque chose sur lequel on a une influence tous les jours. Chaque jour, vous allez tomber sur des gens qui disent « Tu peux me passer un document Word ?» À quoi, chaque jour, vous allez tomber sur des gens qui me disent « Ah ouais, c'est beau, les coins ils sont ronds, et puis ça va super vite, et puis c'est super design, et puis ouais, mais enfin c'est un iPhone, c'est pas vraiment ton téléphone, c'est plutôt celui d'Apple, etc. » Tous les jours, vous allez en avoir. Tout ce que vous ferez sera insignifiant, mais il est absolument nécessaire que vous le fassiez, parce que ponctuellement, ça a des effets sur le réel. Et à la quadrature du net, ça, on l'a mesuré. La quadrature du net, c'est une boîte à outils citoyenne. On donne aux citoyens le pouvoir sur leurs élus. En leur disant, l'amendement numéro 7 du compromis de data protection à Bruxelles le 21 octobre prochain, tiens, c'est après-demain ça, ils vont voter. On met sur pifone.lqdn.fr la liste des députés qu'il faut aller convaincre. Il y a leur numéro de téléphone, vous cliquez, on vous appelle, on vous met en relation avec le député, vous êtes au téléphone avec votre député européen dans votre langue, ou son attaché parlementaire. C'est insignifiant, faites-le. Parce que tout ce que vous faites, ça avance vers le monde que vous voulez construire. Et ce monde, c'est vous qui allez le construire, c'est nous qui allons le construire. Et voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça et que bah, vous puissiez léguer à la génération d'après un monde qui sera le vôtre et pas celui de cette dystopie que je viens de vous décrire. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas quel temps on a, mais si vous avez des questions, ce sera très volontiers.
Levez les mimines.
Je vais m'asseoir, s'il vous plaît.
Bon, bonjour. Où en est la puce TCPA Palladium qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années et qui était assez terrifiante dans ses conséquences?
Elle est dans tous les ordinateurs modernes que vous pouvez acheter. Alors, je redonne le nom. TCPA/Palladium, c'était un ensemble de normes qui ont été écrites il y a une dizaine d'années, peut-être une quinzaine, dont le but était de faire que votre ordinateur... En fait, le but, c'est de vous protéger. Alors ça, c'est pareil, méfiez-vous, rien de plus que des gens qui veulent vous protéger. Faites un art martial, c'est très bien, comme ça vous saurez vous protéger, et comme ça vous allez arrêter d'écouter les gens qui vous disent qu'ils vont vous protéger. Un ordinateur, quand il boot, il y a le BIOS qui démarre le bootloader du système d'exploitation, qui démarre le noyau, qui démarre tous les périphériques, les modules du noyau, et qui démarre les logiciels que vous utilisez. Ça, c'est comment ça démarre un ordinateur. TCPA Palladium, ça visait à dire au BIOS, on va vérifier la somme de contrôle et la signature numérique du bootloader, qui va vérifier le noyau, qui va vérifier les modules du noyau, du périphérique, et qui vont vérifier les logiciels. Ça a commencé par les logiciels chez Microsoft très tôt, et chez Apple maintenant, où il y avait une signature numérique avec une autorité de certification, renseignez-vous sur SSLTLS pour savoir comment ça fonctionne, une autorité de certification qui certifiait et qui donnait une signature numérique du logiciel que vous allez lancer, comme ça vous pouviez avoir confiance. Ça veut dire que c'est d'autres gens qui vous disent « Allez, confiance !» Et donc, toutes ces signatures numériques, c'est remonté peu à peu jusqu'au noyau, et arrivé au bootloader, on a dit « On va mettre dans le BIOS la capacité de vérifier » des signatures numériques d'operating system, de bootloader et de système d'exploitation. Sauf que le BIOS d'aujourd'hui, je vais peut-être mettre un système d'exploitation de demain. Donc je ne peux pas vérifier une signature statique. Donc ils ont un système de signature pyramidale où il y a en gros des autorités de certification dont les clés sont dans votre BIOS, qui peuvent dire, si tu as un BIOS, un bootloader qui est signé par moi, autorité de certification, et que la signature numérique est valable, tu peux considérer qu'il est de confiance. Sauf que ça veut dire que votre BIOS peut aussi dire si le bootloader n'est pas de confiance, genre il s'appelle Group 2, ou il s'appelle S6 Linux, ou il s'appelle le truc de FreeBSD dont j'ai oublié le nom. Ah, le boot surtout pas, c'est peut-être un virus qui se charge avant le système d'exploitation, parce que c'est de ça dont ils veulent vous protéger. Et donc TCPA, on avait peur que ça arrive, et en fait c'est arrivé avec deux choses en même temps, ce qu'on a appelé UEFI et Secure Boot. UEFI, c'est des BIOS étendus qui permettent de faire des lignes de commande et qui permettent de démarrer des systèmes d'exploitation sur des partitions spéciales qu'on appelle les GPT, etc. Et Secure Boot, c'est le nouveau nom de TCPA Palladium, parce que ça fait exactement ce que fait TCPA Palladium, c'est-à-dire que ça a des clés de chiffrement, de certificat SSL, qui permettent de valider le BIOS, le BIOS lui-même, le bootloader, le noyau du système d'exploitation que vous allez lancer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez installer Ubuntu sur le laptop de votre copine ou de votre maman, vous allez galérer parce qu'il faut aller dans le BIOS, il faut désactiver UEFI, il faut désactiver Secure Boot, il faut confirmer que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Pas pour Ubuntu ? Ubuntu a un noyau sécurisé.
Ubuntu, ils ont hacké. Mais
Ils ont payé, quoi.
Il y en a où ça va être la galère.
Donc si je veux mettre ma Debian Wheezy, parce qu'en fait ça fait longtemps que j'installe plus d'Ubuntu, si je veux mettre ma Debian GNU Linux Wheezy, je ne peux pas. Je suis obligé, sur ce Zenbook, j'ai galéré comme un grec pendant un quart d'heure sur les docks d'Ubuntu pour réussir à déverrouiller mon BIOS. Donc ça existe, et c'est le premier pas vers la prise de contrôle complet de nos ordinateurs qui vont se transformer à la fin, comme les iPhones, en truc qu'on pourra... Ouais, c'est pas grave, on peut le jailbreaker. Non, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas mettre un OS libre sur un iPhone aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mettre un OS entièrement libre sur un Android phone aujourd'hui. Tout simplement parce que les téléphones, il y a le baseband. Mais bon. Donc voilà, c'est la première. C'est TCPA, c'est Secure Boot. Et c'est le système qui vous empêche de booter tout ce que vous voulez sur votre ordinateur.
Bien. Bonjour. Qu'est-ce que le grand public savait déjà avant les révélations d'Edward Snowden? Parce qu'on savait qu'il y avait déjà des écoutes illégales avec le réseau échelon, etc. Donc, est-ce que c'est un changement d'échelle ou...
Alors, les écoutes légales d'échelon, oui et non. Les États-Unis ont ça d'assez particulier, c'est qu'ils ont un droit qui évolue beaucoup. La légalité de quelque chose est souvent déterminée plus par un juge que par le droit. Et en gros, y avait un exemple, vous avez peut-être entendu parler de Lavabit, le gars qui avait un service de mail sécurisé, qui utilisait Edward Snowden et qui a fermé sa boîte parce que l'FBI lui a demandé la clé SSL privée de son HTTPS. Il a fait une conférence de 10 minutes au Parlement européen que j'ai tweeté ce matin, que je vous invite à aller écouter. Ça dure 10 minutes, il est très bon. Et il explique qu'en gros, quand vous avez un tribunal secret qui décide de quelque chose et que vous n'avez pas le droit d'en parler et que vous êtes obligé d'obtempérer, c'est plus vraiment de la justice. Donc, dire que c'est légal ou illégal, déjà, on est dans le flou juridique dans le domaine. Les États-Unis, avant 2001, faisaient déjà des écoutes illégales massives des réseaux, de ce qu'était Internet à l'époque, des réseaux de téléphonie, etc. C'était connu, il y avait Echelon et il y avait d'autres projets du même genre, notamment pour tout ce qui était téléphonie. Et c'était connu, on le savait déjà. La vraie différence avec Snowden, c'est la pile de documents qu'il a sorti et le côté smoking gun, c'est un cadavre encore chaud comme je vous disais tout à l'heure, c'est des documents avec marqué secret no foreign, c'est no foreign eyes, c'est interdit aux non agréés confidentiels défense équivalent en français quoi. Donc c'est la vraie différence en fait, c'est pas qu'on n'était pas au courant, c'est pas qu'on se doutait pas de tout ça, c'est qu'on en a des preuves. Et en termes de... Voilà, à la quadrature, on est assez radicaux, mais rigoureux sur le droit, et on se dit que le droit s'applique à partir du moment où on a des preuves, et qu'on est beaucoup mieux protégé quand on va voir un député en disant « Hé, là, on a des preuves, faites quelque chose. » Et d'ailleurs, c'est la chose que j'ai pas précisé. Plus que d'essayer de vous protéger par le chiffrement, les logiciels distribués, et toutes ces choses-là, faites de telle sorte d'aller aussi... rendre conscient vos élus de la dangerosité de ça. Parce que c'est pas tout d'avoir les outils. Si cette surveillance massive continue, ils vont réussir à percer, ils vont réussir à continuer à attaquer notre vie privée. Et je suis pas sûr d'avoir envie de vivre dans le monde où on va s'emmener si on n'a plus ça, quoi. Donc on le savait déjà, depuis longtemps. Il y a même eu des choses, ce que citait le gars de Lavabit, c'était le... Smith, une affaire aux États-Unis de justice qui s'appelait Smith versus Maryland, je crois, qui est l'État de Maryland, qui est en fait un exemple type, c'est qu'aux États-Unis, quand vous donnez une information à quelqu'un, vous ne pouvez pas attendre à ce que vous n'avez pas une expectation of privacy. Vous n'attendez pas à ce que ce soit de la vie privée. Par exemple, si vous téléphonez à quelqu'un, la conversation, c'est entre vous et la personne de l'autre extrémité, et vous vous attendez à avoir de la vie privée. On est d'accord là-dessus. Et la justice à l'époque avait décidé que par contre le numéro de téléphone que vous composez, vous ne l'envoyez pas à la personne en face, vous l'envoyez à votre opérateur. Et lui, il compose vers cette personne. Et donc, qui appelle qui, quand et sur quelle durée, donc ce qu'on appelle nous les FADET ou les métadonnées ou les PAN Register aux États-Unis, ont été jugés à l'époque, dans les années 70, comme étant ne relevant pas de la vie privée. Or, aujourd'hui, avec le nombre de communications électroniques qu'on fait où on demande... au routeur de tous nos opérateurs d'aller voir tel IP, on retrouve exactement le même parallèle. Et donc, les États-Unis ont jugé qu'on ne pouvait pas prétendre à une certaine vie privée dans le cadre de nos communications, en tout cas pas les métadonnées. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, les métadonnées, ça dit 99,999% de ce dont on a besoin pour faire le renseignement et pour faire les écoutes de masse. On n'a la plupart du temps pas besoin de savoir que j'ai dit rendez-vous à 16h au local, dans un mail chiffré aux autres. j'ai juste envoyé un mail aux autres, un tel ont reçu le mail que je dois envoyer tel jour depuis tel IP, donc qui est localisé à tel endroit. Donc ça, ça leur suffit. Donc voilà, tout ça, c'est, on était au courant, mais fallait des, on a des preuves maintenant, et ça, ça change tout. Et donc, allez voir vos élus, demandez-leur des comptes, parce que c'est pas, faut pas que se protéger.
Bonjour. Alors moi, j'aurais une petite remarque par rapport à ta réflexion, où c'était apprendre à coder. Alors, je trouve que c'est bien de dire ça, mais c'est peut-être un peu utopique. Alors, je vais m'expliquer. Il y a 10 ans, je savais pas du tout faire d'informatique, je savais pas programmer une calculatrice, etc. Et j'ai fait 1 an de mise à niveau en informatique. On m'a dit, vous serez jamais ingénieur en informatique et vous allez apprendre à apprendre l'informatique. Parce que ça évolue tout le temps. Si vous vouliez faire informaticien, il fallait faire une école d'ingé. Et j'ai découvert le logiciel libre, etc. J'ai totalement adhéré. À l'heure actuelle, ça fait quelques années que je travaille. J'ai changé plusieurs fois de langage de programmation. Je sais coder, pas aussi bien que quelqu'un qui a fond dedans, mais le soir, je code pas. Sachant que moi, je m'intéresse à l'informatique, je sais coder, je code pas, je me dis, quelqu'un qui n'y s'intéresse pas du tout, c'est totalement utopique de commencer à lui parler de code. Donc je dirais, plutôt que de dire apprendre à coder, c'est plutôt apprendre à apprendre l'informatique. Ça veut dire quoi?
Oui.
J'explique et après j'aimerais ta réaction. Ça veut dire apprendre des concepts de base. Il n'y a pas besoin d'aller apprendre l'assembleur, etc., mais juste savoir c'est quoi un processeur, une carte graphique. Ça veut dire savoir éventuellement monter un PC, pas au moins dans le concept, savoir un petit peu c'est quoi un système d'exploitation, juste des notions. Savoir un navigateur, savoir qu'Internet, c'est pas le Google qui s'affiche. C'est, et là, ça rejoint la conférence qu'il y avait avant sur le côté éduquer déjà les enfants et les adultes sur l'informatique. L'ordinateur, c'est l'objet le plus complexe que l'homme ait inventé. Et donc, c'est apprendre l'informatique. Après, si on est passionné, on peut pousser beaucoup plus loin. Mais, comment dire, faut pas, ce qui est important, c'est vraiment, au-delà du code, c'est apprendre l'informatique, ça permet de dire, voilà, un codeur, voilà, moi, le logiciel, j'aimerais qu'il fasse ça. Je sais, les limites du code. Donc, dans ton côté, apprendre à coder, c'est plus savoir, c'est quoi, comment ça se passe derrière. Des notions d'algorithmie, des notions de quelles sont les possibilités et, les limites de la programmation. Comme ça, on va voir quelqu'un qui a fond dans le code, on lui dit, voilà, ce logiciel-là, il est libre. Je peux le modifier, j'ai besoin d'une fonctionnalité. Je suis capable de t'expliquer dans mon langage à moi ce dont j'ai besoin, parce que j'ai des notions d'informatique minimales. Et toi, qui es codeur, qui es spécialisé, tu vas pouvoir me rendre le service de développer la fonctionnalité. Donc là, on rejoint, en fait, ce que tu disais entre l'importance du code source ouvert, etc., ce qui permet de dialoguer avec des gens qui sont à fond dedans, et ce qui est tout à fait respectable, avec Madame Michu, qui, elle, ne comprend rien. Le problème qu'a Madame Michu, c'est qu'elle veut pas apprendre l'informatique. Donc déjà, il faut lui dire, voilà, on va pas apprendre l'informatique, on va pas apprendre le code, on va apprendre à utiliser un objet. Pour utiliser un micro-ondes, il y a un manuel, on apprend un minimum des fonctionnalités, l'ordinateur, c'est
comme tu le dis, c'est plus complexe. Voilà, c'est un poil plus complexe. Je suis assez d'accord avec ça. Cela dit, apprendre à coder, je dis pas non plus à faire de l'assembleur et apprendre les algorithmiques de The Art of Computer Programming volume 4. On n'est pas obligé d'aller jusque là. Moi-même, j'ai dormi avant la fin. Mais par contre, ça, je pense que ça a un vrai intérêt, notamment pour les jeunes, parce que c'est pour moi une étape extrêmement intéressante pour leur donner envie de mieux comprendre la machine, parce que c'est la façon la plus directe de parler à la machine. Parce qu'en effet, si on veut aller comprendre Internet, configurer son Wi-Fi, comprendre la différence entre logiciels et systèmes d'exploitation, entre Internet, Web et Google, etc., c'est aussi important, je suis d'accord. J'aurais peut-être dû en parler, je l'ai noté d'ailleurs, mais j'enlèverai pas l'idée que, c'est marrant parce que la personne qui est derrière toi m'a dit exactement la même chose hier soir, on dirait, non, lui apprendre à coder, faut pas. Ben oui, mais ça me paraît quand même important. J'ai pris cette idée-là à Ebon Moglen. Et il y a ce côté, parler directement à la machine, justement revenir à quelque chose de simple pour un outil qui nous paraît extrêmement complexe. On lui dit de faire A, B, C, il va faire A, B, C. Et c'est pas forcément coder des langages très compliqués, quoi. Et il y a des choses pour les enfants, notamment, pour leur donner envie de mieux comprendre la machine.
Ouais, expliquer comme ça, c'est mieux, parce que apprendre à coder brut de forme, ça fait faut vous mettre au C++, C++, etc. C'est un peu l'image qu'on
sort. Voilà, je parle plutôt pour les jeunes et pour notamment prendre l'envie de mieux comprendre la machine.
Oui, c'est ça. C'est dans l'idée, si c'est apprendre à coder dans l'idée de comprendre comment fonctionne la machine, peut-être qu'après on ne retouchera jamais du code, mais au moins on sait comment ça marche, comme on apprendrait un moteur de voiture, comment ça marche pour entraîner les roues.
D'ailleurs, quand on passe le permis, on apprend comment fonctionne le moteur.
Tout à fait.
On s'en sert jamais.
Voilà. Et c'est la même chose. Et donc, si c'est présenté dans quelque chose de plus global qui est apprendre à apprendre l'informatique, ça serait mieux. C'était juste la petite critique.
Ouais, merci. J'ai noté en tout cas que c'est vrai que j'ajouterais le apprendre à l'informatique.
Alors on va devoir couper court, donc on va laisser une dernière question.
Oui, bonjour. Je crois qu'il y a deux gros obstacles moraux qui expliquent qu'on ne bouge pas plus sur la vie privée. Le premier, c'est le même qui est à l'œuvre quand on trompe sa copine en embrassant une fille et qu'on se dit le mal est fait, du coup on continue et on couche. D'accord ? Donc ça, c'est le... Vous ne moquez pas de moi, je pense que ça arrive à tout le monde. Donc on se dit bon, bah, le mal est fait. Et je pense qu'on est tous comme ça. Un peu, c'est-à-dire qu'à part Stallman qui a un bios libre, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui, et donc il y a une sorte de contamination morale qui fait qu'on se dit bon, pff, j'ai un compte Gmail, je l'ai depuis 4 ans, du coup ça neutralise nos efforts pour le reste. Donc là c'est pas une question, c'est juste pour dire bah non, même si vous avez aujourd'hui un compte Gmail, un bios proprio, un iPhone, un compte Facebook, la moindre chose que vous
ça
ferez,
ça fait beaucoup hein.
Ouais, ça fait beaucoup, mais ne subissez pas de honte et sachez que la moindre chose que vous ferez sera utile pour avancer vers plus de vie privée. Et le deuxième truc, on a fait une, peut-être était au courant, mais on avait fait une réunion avec Benoît Cibot. Enfin, ça devait être une grande réunion à plein de gens, mais c'était très privé sur la vie privée. On était deux finalement. Et l'un des obstacles principaux, c'est justement cette réplique de j'ai rien à cacher. Et derrière ça, il y a l'idée que la vie privée est un problème privé. Alors qu'en fait, ce qui est hyper important, et tu en as parlé aussi au début, c'est de bien comprendre que la vie privée, c'est un problème public. C'est-à-dire que quand on va sur une mailing list, typiquement, d'accord, je suis Libris, j'ai mon serveur, je suis auto-hébergé, j'ai nettoyé tous mes comptes Gmail, etc., ou je fais semblant de ne pas en avoir, à un moment donné, je m'inscris à la liste. Normalement, mon premier réflexe, ça devrait être de demander à l'administrateur comment est sécurisée la liste. Est-ce que tous les inscrits à la liste, est-ce qu'il n'y en a aucun qui a une adresse Gmail? Il suffit qu'il y ait une personne qui a une adresse Gmail.
Ça, c'est faux. C'est pas parce qu'il y en a un qui a une adresse Gmail dans la liste. Oui, ça veut dire que Gmail aura accès au mail de la liste.
Voilà.
Mais veut dire, on peut pas non plus ne rien faire.
Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que...
J'ai un BIOS pas libre, j'ai un baseband non Android qui est pas libre, que ouais. J'ai même pas passé sur Cyanogen, enfin, pas encore.
Ce que je pense utile, c'est de lutter contre l'inertie morale qui fait qu'on se dit, bon, on a fauté, on peut continuer, et l'autre chose, c'est de lutter contre l'idée que la vie privée, c'est un problème privé, parce que les deux vont de pair. On se dit à la fois, bon, j'ai un peu fauté, et puis en plus...
Il y a un troisième sujet dans ce que tu as dit, qui est l'imperfection. C'est-à-dire, ce que moi j'appelle aussi, pour fâcher un peu, parce que ça fâche, le fait d'être impur.
Oui, voilà.
Alors, je suis impur, j'ai pas...
Moi, j'accepte entièrement l'impureté, chez moi, chez les autres, à condition que ça aille avec une condition de perfectibilité. D'accord ? Si on est impur et cynique, on est fou.
Et même pas forcément de perfectibilité, mais de conscience. C'est-à-dire d'être conscient des problèmes que ça pose. Par exemple, j'utilise... Ghostery comme plugin Firefox qui me protège d'un tout un tas de trucs de tracking, ce n'est pas un logiciel libre. J'ai honte, hein, mais...
Ouais. Mais
j'ai pas mieux. Donc,
je pense que c'est important de sensibiliser sur cette question de dès qu'on est dans un écosystème, on doit se poser la question de quelle est ma dépendance aux autres et quelle est ma dépendance pour la vie privée. Si par exemple on a un compte Facebook, on ne l'utilise plus du tout, le seul fait que les gens nous envoient des notifications en dit énormément sur nous. Donc on dépend, même sans rien faire, même en étant passif, de l'écosystème. Et quand tu définissais la liberté, tu disais que c'était facile. Bon, le philosophe s'est réveillé et je me suis dit c'est pas si facile. La liberté, on peut définir soit par rapport au droit, on dit ce que j'ai le droit de faire, c'est ça ma liberté, soit par rapport au pouvoir. Si on a tous plein de droits et qu'on est complètement comme des haricots verts, à savoir rien penser, rien agir.
C'est la liberté de penser en soi. C'est Moglen dans sa conférence à Republica qui expliquait justement que la liberté de penser, si on veut la garder, il va falloir travailler sur tous ces sujets-là que je vous ai évoqués. Et il parlait, lui, de l'Église catholique romaine en Europe, qui contrôlait complètement la pensée des individus par la messe tous les dimanches, avec le sermon, et il y avait tout cet aspect vraiment où on contrôlait vraiment la liberté de penser.
Mais là, ce que je voulais juste dire, c'était cette idée de, on peut définir par rapport au droit ou par rapport à ce qu'on peut, ok, pour une définition simple, mais je pense que c'est la même chose par rapport à la vie privée. On se dit qu'on voit assez bien ce dont on a le droit de réclamer comme vie privée au niveau de la pudeur et de la comparaison avec ça. Mais aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il peut. C'est-à-dire ce que peuvent faire les autres pour violer notre vie privée, même parfois sans le vouloir. D'accord ? Nous taguer dans une image sur Facebook ou des choses comme ça.
Et passer
le mot. Chacun peut faire.
Ce que vous faites sera insignifiant, mais il est extrêmement important de le faire parce que localement, ça aura un effet. Et l'effet boule de neige, et sur ça, je rejoins la conférence de j'ai oublié son nom, celui d'avant, dans le, sur l'éducation. Ce que l'on fait dans le milieu de l'éducation.
C'est moi. Hein.
Ah, c'était toi, excuse-moi. Voilà, bah, je te reconnais pas d'ici, je suis désolé. Je rejoins ta conférence de tout à l'heure où tu expliquais qu'il fallait passer le mot parce que l'éducation, c'est ceux qui, à leur tour, passeront le mot. Voilà, c'est, j'ai lâché l'affaire pour mes parents. Par contre, ma petite sœur et ses enfants, ça, je veux dire, ils vont y avoir le droit, quoi. Ils vont comprendre. Et donc, oui, je suis d'accord. Et je rappelle, hein, la vie privée, c'est le coup du « j'ai rien à cacher », c'est surtout parce que ça porte atteinte, enfin, c'est important parce que ça porte atteinte à la liberté d'autrui. Cet argument-là, on n'y pense pas en premier abord. Et or, faire mal aux autres, c'est toujours vraiment plus frowned upon.
Ouais. Mais je pense qu'il faut modérer l'aspect moralisateur des discours sur la vie privée parce qu'il marche jamais. On fait que de faire la morale aux gens et en fait, c'est très bien, c'est pas grave d'avoir un Facebook, on n'est pas un meurtrier. On peut progresser quand même. Et c'est pas grave d'avoir ce réflexe de dire j'ai rien à cacher du moment qu'on commence à comprendre que notre vie privée dépend de celle des autres. Voilà. Et que ça.
Merci.
Bon, merci beaucoup. Je vais devoir couper court. Je sais qu'il y a plein de gens qui voulaient poser des questions, mais là, on...
Vous les posera Benjamin, il est aussi membre du CA de la Quadrature.
Donc. Exactement. Et globalement, de toute façon, on va faire une petite pause avant la conférence suivante avec Benjamin Bayard. Et donc, pendant cette petite pause, je vous invite tous à courir vers Benjamin Zondag et lui poser votre question de visu. Donc, harcelez-le, il est là pour ça. Et on vous retrouve à 17h45 pour la conférence suivante. Merci.